France Culture.
Réplique, les jeux du cirque médiatique avec Laurent Nunez et Thibaut Reiss. Le Conte de minuit de Thibaut Reiss est un livre qui ne m'était pas destiné. Heureusement, un proche, un très proche, m'a détourné de mon droit chemin. Je lui sais gré de cette lecture buissonnière, car j'ai été captivé par l'histoire vraie de Gérard de Suresnes, SDF, devenu star de la radio malgré lui. J'ai donc invité son auteur et avec lui l'écrivain et éditeur Laurent Nunez, qui était, je crois, un auditeur des débats de Gérard entre 1996 et 2002 sur Fun Radio. Alors faisons les présentations. Qui était ce Gérard de Suresnes, Thibaut Reiss, et pourquoi lui avez-vous consacré une enquête littéraire aussi minutieuse, aussi foisonnante, aussi passionnée?
Alors moi je suis journaliste de profession, mais j'étais surtout un auditeur de ces émissions de radio au milieu des années 90. Alors moi je suis né en 1982, j'étais adolescent, j'avais 14 ans quand Gérard était à l'antenne de Fun Radio, et à cette époque-là on n'avait pas Internet. Moi, j'avais pas la télé dans ma chambre. Et donc, pour repousser le couperet du sommeil le soir dans mon lit, dans le dos de mes parents, eh ben, j'avais pas tellement le choix. J'avais la radio. Et donc, j'écoutais ces émissions nocturnes. On est à la grande époque de ce qu'on appelle les libres antennes. Donc, ce sont des émissions pour les jeunes, à destination des jeunes, avec la plus emblématique d'entre elles qui était Love in Fun, qui était une émission de libre antenne sur les questions de relations sentimentales et de sexualité sur Fun Radio, qui est une radio commerciale nationale. Et puis, un peu plus tard, il y avait une émission animée par Max qui n'avait pas de thème particulier, où tout pouvait se passer. C'était vraiment une émission parfaitement imprévisible, dans laquelle étaient parfois accueillis des hurluberlus, noctambules, comme ce Gérard, qui au début de l'histoire est un ancien routier marginalisé, alcoolique, à qui l'on va confier une émission de radio, une émission de débat, qui s'appelle « Les débats de Gérard ». Et au départ, c'est un simple auditeur, mais il devient un peu la mascotte de cette émission, jusqu'à avoir sa propre émission de débat. On va en reparler, qui n'est ni une émission, et certainement pas une émission de débat, mais qui est en fait un dîner de cons radiophonique. Et moi, j'écoute cette émission à l'époque, j'ai 14 ans, je me marre beaucoup, j'essaye de mordre le coussin pour pas que mes parents soient alertés que je suis pas en train de dormir. Et puis, je grandis, je mûris, et puis je cesse d'écouter ces émissions que je trouve un peu régressives. Et puis, cette histoire me revient à l'aube de la quarantaine, dans des circonstances que je raconte dans le livre. Je tombe sur un portrait de Max, qui était l'animateur de cette libre antenne nocturne. Et je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là depuis toutes ces années? Et puis surtout, qu'est devenu Gérard? Et donc, je fais une recherche sur Google et je m'aperçois de deux choses. La première, c'est qu'il est mort très jeune, 3 ans seulement après la fin de ses émissions en 2005. Et surtout, qu'il a été enterré au carré des indigents. Et là, je me dis, il y a un bout de l'histoire
cimetière
qui
de Désertines dans la banlieue de Montluçon.
Exactement.
Cimetière de Désertines.
Comment cet homme qui a été une vedette, alors pas une méga star, mais quand même, de ses émissions de radio nationale, écoutées par des centaines de milliers de jeunes, comment ça se fait qu'il est mort aussi jeune et comment ça se fait qu'il est mort dans cette misère et cette solitude? Donc j'ai voulu essayer de reconstituer son histoire.
Très bien. Alors nous verrons un peu les raisons de son succès. Mais vous, Laurent Nunez, vous étiez aussi un auditeur de Fun Radio, donc vous avez le souvenir des débats de Gérard.
Ah bien sûr, moi j'ai le souvenir d'un... Parce que je suis en 78, donc j'avais 16-17 ans quand j'écoutais les débats de Gérard. J'étais à Orléans et j'ai le souvenir d'une grande liberté. Il faut se rappeler d'un moment où, en effet, sans Internet, au tout début, il n'y avait rien d'autre à faire le soir quand on était un enfant sage, que d'écouter ce que disaient les autres et ce qu'ils disaient affreusement. Et ça, c'était quelque chose d'assez extraordinaire et à l'abri des parents. Moi, j'avais confectionné tout un système avec un écouteur planqué dans mon oreiller pour écouter quelqu'un parler que je ne connaissais pas, que je ne voulais pas connaître parce que j'hésitais toujours entre le réel ou la farce. Et je me bidonnais, vraiment, comme dit Thibault, je riais et je mettais ma tête dans l'oreiller pour pas que mes parents entendent. Il y avait une sorte de plaisir honteux, coupable, merveilleux. J'en ai encore des très très bons souvenirs.
Il faut rappeler quand même les conditions de l'apparition de Gérard. Il a d'abord téléphoné à la radio d'une cabine et il a récité des poèmes. Des poèmes très naïfs, naïveté pathologique, dites-vous dans votre livre, Thibaurès. Mais quelques-uns étaient assez émouvants. Il y en a un que vous citez. « Je voudrais te dire je t'aime avec une lettre, mais je n'ai pas ton adresse. Je voudrais te dire je t'aime dans le creux de l'oreille, mais tu écoutes ton Walkman. » C'est pas mal. Mais aussi, il se fait très vite connaître pour son abyssale ignorance. Autre exemple que j'ai trouvé dans votre livre, Thibaurès, la réforme annoncée des 35 heures n'a aucun sens puisque l'on ne peut pas travailler plus de 24 heures par jour. Ou bien la capitale du Brésil est Maradona. Que doit-on cuisiner à une fille végétarienne qu'on veut séduire? Réponse de Gérard, un steak de cheval parce qu'il n'y a pas de porc dans le cheval. Mais là, il fait rire, bien sûr, il fait rire, on se met la tête sous l'oreiller pour que les parents n'entendent pas, mais à ses dépens. Alors, la question que je pose, il devient peu à peu même un souffre-douleur, mais quel plaisir preniez-vous à écouter ça? Est-ce que ce n'était pas un plaisir un peu sadique, Thibaurès?
Effectivement, comment Gérard est devenu cette figure de l'antenne? Vous l'avez rappelé, ça a commencé par des poèmes qu'il va réciter depuis la cabine téléphonique en bas de son HLM. C'est un homme qui vit seul, qui broie du noir toute la journée. Et en récitant ses poèmes d'amour, il a l'idée peut-être de séduire une auditrice et comme ça d'arriver à se mettre en couple. Et évidemment, sur ses libres antennes pour jeunes, cet homme qui a 34 ans, qui a se parlé un peu de garçon boucher, qui récite ses poèmes d'amour d'une naïveté confondante, ça fait rire tout le monde. Ça fait rire l'animateur Max et ça fait rire les jeunes auditeurs que nous étions. Parce que c'est totalement en décalage avec notre univers, avec la réalité qui est celle d'un adolescent de 15 ans à l'époque. Et donc, on voit bien que cet homme est d'une naïveté confondante. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va rappeler, Gérard est totalement insensible à la critique, et finalement, il va y avoir un petit retournement de situation, et au lieu de se moquer de ses poèmes naïfs, l'animateur de ses émissions va le mettre en valeur. Et va lui dire, du jour au lendemain, mais tes poèmes, en vérité, on s'est trompé, tes poèmes sont magnifiques. Est-ce que tu voudrais venir plus souvent nous en réciter? Et peu à peu, c'est comme ça que Gérard va devenir une figure de l'antenne, un peu la mascotte de cette émission, jusqu'à ces fameux débats de Gérard, dont le principe est en vérité assez simple. Gérard vient à l'antenne avec un thème de débat, et pendant une heure, il va débattre avec des auditeurs de ce thème. Ça, c'est ce qu'il croit, en vérité. Il n'est absolument pas question de débattre avec Gérard du thème qu'il a choisi. Il est question de se moquer de lui, de son ignorance, de son inculture, de cette façon de parler de pompiste dans un film de Michel Audiard, comme je le dis dans le livre, et in fine de le faire s'énerver parce que Gérard est un homme alcoolique, il a l'alcool nerveux et il s'emporte très facilement. Et donc le but de cette émission, c'est à la fois de se moquer et au bout du compte, c'est de le faire enrager. Et donc oui, bien sûr, ce principe est très cruel. Et le plaisir que moi je ressentais, il était effectivement un plaisir un peu sadique, celui du bouffon dont on se moque à ses dépens. Mais il y a aussi, et c'est une part importante du livre et de cette histoire qui méritait, je pense, un livre parce qu'elle est plus complexe qu'elle n'y paraît, il y avait aussi une forme de tendresse. La tendresse qu'on peut ressentir pour ceux qui nous affligent, la tendresse qu'on ressent pour ceux qui sont naïfs et qui ne voient pas ce qui se trame autour d'eux. Et donc, il y avait effectivement cette cruauté, mais aussi cette tendresse, je crois, vraiment sincère.
Et vous aussi, cruauté et tendresse?
Oui, vraiment. D'ailleurs, fascination pour le cancre de la classe. C'est vraiment, il incarne quelque chose dans le groupe. Il est le pire. Mais le pire non méchant. il crie, il hurle, il invective énormément, mais on en vient, j'allais dire presque jamais, aux mains. Ce qui m'avait troublé, en effet, c'est quand même, c'est toujours cette imprécision. Moi, j'ai arrêté d'écouter au moment où j'étais sûr qu'il ne jouait pas un jeu. Mais pendant longtemps, j'ai hésité. Je me suis dit, c'est pas possible.
La question,
voilà,
oui.
C'est pas possible d'être si inculte. C'est pas possible de se fâcher autant. Et j'écoutais vraiment dans un plaisir, dans une sidération. Quand j'ai lu le livre de Thibault, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai contacté dans les réseaux sociaux pour quelque chose de très simple. C'est que moi-même, en 2025, en fait, on commémore les 20 ans de sa mort. Et moi-même, j'ai été dans le projet d'écrire un livre sur Gérard. Mais j'avais pas le talent de Thibault, j'avais pas fait des enquêtes, mais j'avais une dizaine de pages, j'avais un plan, beaucoup plus manichéen, hein, parce que moi, je voyais vraiment les animateurs de radio comme des purs ennemis, leur silence. Mais voilà, je voulais quelque chose comme redonner une nouvelle fierté à Gérard, lui redonner une vraie vie. Quand j'avais appris sa mort en 2005, j'avais concocté voilà, une dizaine de pages. J'étais arrivé beaucoup moins loin que ce que Thibault a fait, où il montre clairement les ombres et la lumière de ce personnage et de sa relation avec à la fois toute une équipe de radio, qui en fait sont beaucoup moins manichéens qu'on le pensait à son égard, et toute une vie, notamment avec sa fille, que j'ignorais absolument.
Enfin, pas être trop manichéen, dites-vous, ouais. Mais à la fin d'un certain nombre d'émissions, il y avait un message qui dit que ce débat n'avait ni qu'une tête, comme toi. Et ce message, il est passé par la radio. Puis vous dites aussi, Thibaurès, que les animateurs, enfin, de l'émission, les standardistes et les autres, mettaient un verre d'eau au-dessus des portes. Comme ça, il passait et le verre d'eau lui tombait sur la tête. Donc, c'était aussi leur but à tous ceux qui faisaient les émissions. C'était de se moquer de lui, de le faire sortir de ses gonds à travers les questions qu'il posait, parce qu'il savait que ça marchait quand même.
Oui, tout à fait. Thibaurès. C'était orchestré, tout était orchestré.
Orchestré, voilà.
Autour de Gérard. Gérard pense avoir affaire chaque semaine à des auditeurs différents. En réalité, au bout de quelques mois, ce sont toujours les mêmes auditeurs qui vont venir, qui vont être les convives de ce dîner de cons radiophonique, alors que Gérard pense avoir affaire à des auditeurs à chaque fois différents.
D'un autre côté, oui, comme vient de le dire Laurent Nunez, vous avez mené une enquête très fouillée sur Gérard, et donc vous nous racontez sa vie, pas simplement sa vie de star de radio, sa vie tout entière, et vous montrez que c'est précisément un estropié de la vie, un champ de ruines affectif, avec une mère, disons, un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, toxique, qui ne cesse de le répudier pour l'envoyer à l'assistance publique, de le revendiquer et de le répudier ensuite. Donc il souffre vraiment d'une carence qu'il n'a jamais pu combler. Et là, la compassion, quand on lit le livre, l'emporte de très loin sur la cruauté, Thibaurès.
Oui, parce que quand je me réintéresse à cette histoire, à l'aube de la quarantaine, je vois la misère dans laquelle Gérard est mort et je repense au gamin de 15 ans que j'étais, qui se marrait sous sa couette, et je me dis, mais je n'avais absolument aucune forme de recul à l'époque. Et donc je décide, quand je commence à enquêter sur ce qui va devenir ce livre, je me dis, voilà, j'ai rigolé avec la bête de foire, il est temps de s'intéresser à l'homme qu'il y avait derrière. Et donc, comment redonner à Gérard toute son humanité? Eh bien, il fallait raconter son histoire, et il fallait lui redonner son histoire et toute sa complexité. Et donc, c'est ce travail-là que j'ai fait avec ce début de vie que vous avez rappelé, très difficile, dans l'assistance sociale, avec cette mère qui, effectivement, est une mère toxique, pas vraiment aimante, c'est le moins qu'on puisse dire, toutes ces carences éducatives, affectives, et la fin de sa vie dans la solitude la plus absolue, et donc un début de vie dans la misère, une fin de vie dans la misère. Et au milieu, ce quart d'heure de gloire totalement improbable qui va faire finalement de l'histoire ordinaire d'un homme ordinaire un véritable destin.
Un destin, oui, ce quart d'heure de gloire qui lui a valu un voyage au Festival de Cannes, son premier voyage en avion, et même un autre voyage à New York pour la première du film Godzilla. Il a découvert un monde, et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai lu aussi votre livre, Laurent Nunez, « Regardez-moi jongler », qui est consacré à l'orgueil dans la collection « Les sept péchés capitaux » des éditions du Cerf. Et vous citez Gide. J'écris pour mettre quelque chose à l'abri de la mort. Magnifique citation. Mais vous dites, c'est la plus grande folie des écrivains, leur plus grand orgueil. Mais d'un certain côté, c'est ce qu'a fait Tiborès. Il a un peu mis cet homme qui était programmé pour disparaître, en quelque sorte, Gérard Cousin, à l'abri de la mort. Et de cela, on peut se féliciter. Qu'en pensez-vous ?
Bien sûr, on peut évidemment s'en féliciter, d'autant plus que vous savez, le problème des avancées technologiques, c'est qu'elles sont vite dépassées et que toutes les cassettes qu'on avait enregistrées de ces débats ne sont plus lisibles.
C'est pas vrai.
Absolument nulle part. Et donc, fort heureusement, on a réussi à transvaser tout ça dans des sites internet.
Ils sont consultés ?
Ouais, qui sont absolument consultés, comme Radio Cousin, c'est ça ?
Ouais.
Voilà, si je me trompe pas, que j'écoute encore parfois dans les nuits d'hiver où j'ai du mal à m'endormir. Mais donc, bien sûr, on peut encore les consulter, mais c'est une autre façon de mettre à l'abri de la mort, pour reprendre la phrase de Gide. Mais la force du livre de Thibault, moi j'ai trouvé, mais c'est très pessimiste, c'est que ça bat en brèche aussi la folle idée de la résilience. C'est-à-dire que l'idée de Fun Radio, c'était qu'il sortait ce type de son malheur grâce à eux. Dans toute leur bonne conscience, ils le sauvaient de ce qu'il était, et en fait, ils ne l'ont pas du tout sauvé. Il n'a fait que continuer de cause en conséquence, depuis cette enfance absolument gâchée, ratée par sa mère, avec cette peur de l'abandon qui faisait qu'il tombait d'abandon en abandon. Ils n'ont fait que le propulser vers le lieu où la ville voulait absolument l'emmener.
On le voit dans votre livre, Tiborès, il était insauvable. Il reçoit... Finalement, on a beaucoup exploité à Fun Radio un salaire. Eh bien, c'est dans le moment où il est salarié qu'il se montre le plus paresseux. Il ne vient pas toujours. Il prétexte des grèves qui n'existent pas, etc. Et puis, il a des expériences féminines grâce à la radio qui se terminent toujours mal. Il ne sort pas de son éthylisme. La résilience, ça ne marche pas. Il y a quelque chose de douloureusement, de pathétiquement, de tragiquement incorrigible chez ce pauvre homme. Et alors, comble de l'incorrigible, il y a ce moment de basculement que vous allez nous raconter. C'est en 2002, non ?
Tout à fait.
Tout d'un coup, il se lève en pleine émission et il crie « Heil Hitler ». Alors, que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il fait cela? Et quelles ont été les conséquences?
Alors, cette émission, au moment de ce dérapage, l'émission dure depuis 6 ans. Alors, il faut s'imaginer ce canular géant, tous les jeudis, à minuit, qui doit durer au départ quelques semaines, quelques mois. On rigole d'un représentant de la France des bistrots, quoi, d'un prolo, on pourrait dire. Mais ce canular, pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent encore aujourd'hui, va perdurer pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, Gérard, il est encore là. Ça fait 6 ans qu'on se moque de lui. Ça fait 6 ans qu'il hurle toutes les semaines au micro. Ça fait 6 ans qu'il pense que peut-être que la fois d'après, tout va bien se passer. Et évidemment, ça se passe toujours mal. Il perd sans doute patience plus facilement. Et ce soir-là, lors de cette émission, le thème de l'émission est consacré au phénomène du bizutage. Et une auditrice à l'antenne va lui faire croire qu'elle est amoureuse de lui, qui est un gag très récurrent dans l'émission de Gérard. En vérité, ce n'est pas une auditrice. C'est un jeune lycéen de 16 ans qui fait déjà tourner en bourrique Gérard depuis...
Alors, il modifie sa voix, c'est ça ?
Oui, alors, exactement. Il modifie sa voix, tout le dispositif autour de Gérard depuis toutes ces années tourne essentiellement autour de ça. On change sa voix, on met un chiffon sur sa bouche et Gérard n'y voit que du feu. C'est un prodige en quelque sorte. Et donc ce soir-là, Gérard, tout énamouré par cette histoire d'amour naissante qui n'en est pas une, va être vraiment, je dis, saoulé à l'eau de rose, quoi. Il est très excité, on sent qu'il est finalement de très bonne humeur. Et l'émission se déroule plutôt bien au départ, il n'y a pas trop de cris, on ne se moque pas trop de Gérard de manière frontale. Et puis de manière totalement inexpliquée, sans que ça ait aucun rapport avec ce qui était en train d'être dit à l'antenne, Gérard va crier « Heil Hitler », provoquant la stupéfaction et l'effroi le plus absolu dans le studio.
Oui, mais alors, justement, est-ce que vous avez écouté l'un et l'autre
bien
ce moment?
J'étais là, bien sûr.
Vous étiez là?
J'étais dans mon lit.
Comment avez-vous réagi?
Il faut se rappeler que c'était la radio non filmée aussi, donc on entendait que des choses, on ne savait pas ce qui était vrai ou faux. Et en effet, moi, j'ai entendu, il devait être assez tard, parce que je me rappelle d'avoir entendu c'était pas un « Hitler », c'était un « I », avec quelques secondes. Et le « Hitler » est venu après, oui. Ce qui me montrait qu'en fait, il y a une sorte d'esprit d'escalier et que les deux étaient séparés. Moi, c'est ce que je me rappelle d'avoir entendu. Et je me suis dit, en fait, il s'est cogné quelque part. et aviné, échauffé ou quoi, il a fait une blague qui est de son niveau. Et j'étais à la fois, j'étais les deux, j'étais à la fois étonné, abasourdi, et en même temps, j'haussais les épaules en me disant, je lui ai déjà tellement pardonné. Tout ce qu'il disait n'avait aucune valeur. Donc comment accorder de la valeur supplémentaire à cette chose-là ? C'est comme ça que je l'avais entendu voilà, du haut de ma jeunesse.
Et vous, Tiborès ?
Alors moi, j'ai pas écouté cette séquence en direct. J'ai découvert bien plus tard. J'ai réécouté littéralement des centaines d'heures d'émissions pour faire ce livre. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y avait peut-être les signaux d'un antisémitisme, quel qu'il soit ? Même, je dirais, bas de gamme, si vous me permettez ce terme. Et à aucun moment, dans ces émissions, il n'y a la moindre allusion qui pourrait s'en rapprocher.
Et en même temps, les conséquences ont été terribles. L'émission a été arrêtée.
Immédiatement.
Et il a disparu de l'antenne.
Tout à fait.
Voilà. J'ai cité ce moment parce que je viens de lire un livre de Clément Vedrenal, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin. Et il y a un chapitre consacré à Ciné, le dessinateur Ciné. Et là, ça nous amène à notre sujet. C'est une nuit d'août 1982. Il participe à une émission sur la radio Carbone 14. Les radios libres ont été autorisées un an plus tôt. Et c'est très intéressant, le dispositif. Ciné est invité par le jeune animateur Jean-Yves Lafesse, qui fera plus tard une carrière d'humoriste. Et l'émission s'appelle « Le jeu de la vérité ». Elle est fondée sur le concept suivant. L'invité s'engage par avance à siroter sans modération durant l'interview une bouteille de whisky présente sur la table du studio, tout en répondant aux questions. Vous voyez, déjà un dispositif pour le faire déraper. Ciné va très loin, beaucoup plus loin que Gérard Cousin. Israël doit être détruite comme Carthage, soi-disant les Juifs qui ont un folklore là con, à la chagale de merde, c'est eux qui empêchent de vivre les Palestiniens. On parle de l'attentat de la rue des Rosiers qui vient de frapper le restaurant Goldenberg. Je te dis un truc, même s'ils sont des assassins, je suis pour. Un peu plus tard, il dit « Je suis devenu antisémite depuis qu'Israël bombarde. Je suis antisémite et je n'ai plus peur de l'avouer. Et je vais faire dorénavant des croix gammées sur tous les murs. Les pauvres cons, dit-il des Juifs, ce sont des cons congénitaux, c'est dingue. Tu sais que ça se reproduit entre les Juifs, c'est quand même fou, il faut les euthanasier. » Il fait paraître un peu plus tard, à ses frais, dans Le Monde et Le Quotidien de Paris, un placard dans lequel il présente ses excuses. Il met à nouveau ses propos sur le compte de l'alcool, tout en expliquant qu'il était sous le choc des massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila, perpétrés par les milices chrétiennes, alliées d'Israël. Pour autant, Ciné a récidivé mezzo voce en 2006 dans Charlie Hebdo, parlant de la liaison entre Jean Sarkozy et la petite fille du fondateur de la chaîne des magasins d'Arty. Jean Sarkozy, écrit Ciné, vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée juive et héritière des fondateurs d'Arty. Il fera du chemin dans la vie le petit. Et bien, Philippe Val, qui dirige Charlie à ce moment-là, lui demande de présenter ses excuses, ce qu'il ne fait pas. Il est donc licencié et il reçoit l'appui d'une grande partie de l'intelligentsia. Parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme sourcilleux fait corps avec l'antisémitisme débridé. Jérôme Guedj, j'en sais quelque chose. Mais enfin, je reviens à notre sujet. On a l'impression que les radios libres avaient un peu ce but. Effectivement, ils mettaient les gens dans des conditions telles qu'ils allaient déraper, que c'était une manière de transgresser toutes les limites. N'était-ce pas ça la philosophie de ces radios libres, Tiborès ?
Alors oui, il y a un aspect transgressif très très clair. D'ailleurs, il y avait eu un dérapage déjà sur Fun Radio, quelques années auparavant, d'un animateur qui s'appelle Coé, qui est devenu ensuite animateur télé, qui est toujours animateur radio d'ailleurs, et qui avait, dans cette course un peu à l'échalote de la transgression, de la quête des limites morales, fait un dérapage sur Auschwitz qu'il avait comparé à un camp de vacances. Il s'était attiré les foudres.
Non, il avait dit, si vous voulez vous acheter une maison voilà. de vacances, j'en ai une qui est libre.
Voilà, c'est voilà, ça. C'est ça. S'attirant évidemment les foudres du CSA, ça lui a coûté une longue traversée du désert. Et donc effectivement, il y a cette idée d'être dans la transgression, de flirter avec les limites. Mais je crois que dans le cas de Gérard, on n'est pas tout à fait là-dedans.
Oui.
En l'espèce, Gérard, pour vous donner un exemple, je ne sais même pas s'il sait qui est Hitler. Enfin, je veux dire, Gérard, quand il y a un débat consacré à la préhistoire, dit que la préhistoire, ça s'est déroulé en 1900 et des brouettes. Donc on en est, c'est ce niveau de culture-là, ou d'éducation, d'instruction. Donc je ne me l'explique pas. Gérard a pu faire preuve pendant ses 6 ans d'émission de propos qu'on pourrait qualifier facilement aujourd'hui de sexistes, mais à aucun moment quelque chose qui se rapproche de près ou de loin de l'antisémitisme. Et donc, je ne sais pas expliquer ce dérapage. Et Gérard, quand il sera interrogé, notamment sur d'autres radios après son éviction, sur ce dérapage, ne saura pas davantage l'expliquer. Il s'excusera, il n'a fait que s'excuser pendant les semaines qui ont suivi. Oui. Et il dira qu'il n'a aucune explication sur l'origine de ce dérapage.
Venons-en justement à ce moment des radios libres. Qu'est-ce que ça a représenté, selon vous ? Je me souviens d'une grande manifestation pour énergie. C'était dans les années 80, je crois, parce que cette radio bavait sur d'autres radios, etc. Bref, enfin, en tout cas, il y a eu une manifestation avec Johnny Hallyday, je crois, etc. Donc, qu'est-ce que ça a représenté, ce moment des radios libres rennaises ?
Avant de dire ça, je voudrais quand même revenir sur la gauche antisémite, le livre de Clément Vel-Rénal, qui est sous-titré « Une haine qui vient de loin ». Parce que moi, je sais que cette haine continue encore, simplement parce que je suis l'éditeur du prochain livre de Philippe Val, qui sort mercredi prochain, et qui s'appelle « La gauche et l'antisémitisme », et qui montre clairement comment ces 3 dernières années, la gauche a toujours entretenu un rapport très précis, très précieux, en tout cas qu'elle considère très précieux, avec l'antisémitisme. On voit bien que la haine, dans les propos que vous venez de nous lire de Ciné, cette haine est datée, et en même temps qu'elle est complètement actuelle. Et ça, j'ai relu les épreuves il y a 3 semaines, et j'en suis complètement conscient.
C'est vrai, c'est-à-dire que les vieux démons ont été remplacés par des jeunes démons fougueux qui ne s'en prennent pas au peuple déicide, mais au peuple génocide, si j'ose dire. Et c'est toujours de cela qu'il s'agit, notamment pour Jérôme Guedge. Hein. Sioniste, sale sioniste, c'est comme ça qu'il se fait sortir des manifestations, parce que sionisme veut dire appui au génocide et rien d'autre. Mais revenons-en, et il semblerait effectivement que le pauvre Comte Minuit soit totalement ignorant de tous ces enjeux. Il n'a jamais très bien su ce qu'il disait, et pas plus à ce moment-là qu'à un autre. Mais revenons-en à ce phénomène des radios libres, cette transgression perpétuelle, cette ivresse de la liberté. Qu'est-ce que ça a représenté en France, Laurent Nunez ?
Ça a représenté, en tout cas, si je parle pour moi, une des plus grandes de libertés qui m'a été donnée dans l'adolescence. On était très loin du web 2.0, commune, où on pouvait vraiment participer, donner son avis, etc. On passait d'un moment de radio et presque effectivement musical, on n'écoutait que de la musique, à un moment où les gens conversaient. Et on découvrait que son voisin, son ami, les gens tout autour pouvaient parler, que parfois ils parlaient pour ne rien dire, c'était aussi une des premières découvertes de la radio libre, qu'ils pouvaient parler en disant des âneries, en disant des bêtises, mais il y avait une très très grande liberté. Moi j'ai découvert Max, j'ai découvert sur Skyrock, qui était encore une radio de discussion, une autre soirée avec une femme qui s'appelait Super Nana, où il y avait des dizaines de débats comme ça, en fait des dizaines de voix. Moi j'ai découvert vraiment, s'il faut le dire quelque chose, l'altérité, c'est-à-dire la possibilité d'une autre pensée, moins haute ou plus haute que la mienne ou quoi, mais entièrement différente. Et ça, c'était quand même une très grande nouveauté.
Vous avez éprouvé la même chose, Tiborès ?
Oui, alors il faut s'imaginer ce que c'était à l'époque que les libres antennes, et notamment la libre antenne de Fun Radio. C'était 3, 4, 5 millions d'auditeurs. L'émission Lovin' Fun, emblématique de cette époque, était à 18h l'émission de radio la plus écoutée, toutes radios confondues. Et il y a eu une manifestation au moment où le CSA a voulu justement réguler cette émission de radio, où des propos très grivois, le mot est faible, était prononcé en totale décontraction. Et il a fallu en appeler à cet Alain Carignon, à l'époque, ministre de la communication du gouvernement Balladur, qui va faire reculer le CSA et permettre à cette émission de perdurer. Donc c'est une émission, c'est un phénomène, ces libres antennes de Fun Radio, qui sont observées jusqu'au sommet de l'État.
Est-ce que ça s'est arrêté? Qu'en est-il aujourd'hui? Existe-t-il encore des radios libres? Fun Radio diffuse-t-il toujours? Qu'est-ce qui se passe, Tibores?
Ce qui s'est passé, c'est que ces libres antennes très transgressives étaient à destination donc des jeunes, voire des très jeunes. Hein. L'auditeur moyen avait 14, 15, 16 ans. Et les patrons de ces radios se sont aperçus que, même si elles étaient très populaires, ces émissions ne rapportaient pas beaucoup d'argent. Parce que le problème de l'adolescent rebelle qui a 14 ans, c'est qu'il n'a pas d'argent. Et donc les annonceurs renaclaient à acheter des espaces de pub, c'est comme ça que vivent les radios, pour des gamins qui n'avaient pas d'argent. Et en plus de ça, placer des écrans de pub sur des considérations, on va dire, très triviales pour le moins, c'était pas forcément un très bon plan. Et donc Fun Radio est une radio qui était très lourdement déficitaire. Et il y a eu un virage pris dans les années 97-98 où on a enlevé ces émissions de talk show très populaires mais qui ne rapportaient rien. Et on a mis à la place des émissions musicales ou des émissions de talk mais beaucoup plus aseptisées pour avoir des auditeurs plus âgés et donc plus solvables. Et donc toute cette liberté qui confinait à l'anarchie va disparaître peu à peu. Et aujourd'hui, Fun Radio ou Énergie sont des radios essentiellement musicales, qui attirent un public beaucoup plus âgé que les gamins de 15 ans que nous étions, mais qui sont aussi beaucoup plus rentables. Et cette liberté, cette anarchie totale, aujourd'hui, s'est déplacée en vérité sur Internet.
Oui, alors justement, c'est de ça que j'aimerais que nous parlions. Vous le dites dans votre livre, Tibores, sans Internet, l'ado des années 1990 n'avait que deux options pour repousser le sommeil dans le secret de sa chambre, lire ou écouter la radio. Maintenant, dans le secret de la chambre, on n'écoute pas la radio, on ne lit plus beaucoup, il me semble, on se branche, on se connecte sur Internet, et donc un monde nouveau est apparu, une révolution a eu lieu à l'intérieur même de ce que Régis Debray appelle la vidéosphère, avec Internet, donc les stars à la Gérard ont été remplacés, je ne sais pas, par les influenceurs, mais la violence, la cruauté existe toujours sur les réseaux sociaux. Alors, que penser de cette mutation, Laurent Nunez?
J'ai été un peu victime de cette violence-là, puisque je m'appelle Laurent Nunez, et que quelqu'un a honteusement usurpé mon nom et mon prénom, puisqu'il s'agit du préfet de police de Paris. Et donc, sur les réseaux sociaux, juste, mais que sur les réseaux sociaux d'ailleurs, nulle part ailleurs on me confond avec lui, mais sur les réseaux sociaux, j'ai pris longuement, à tel point que je me suis à un moment pendant 2 ans effacé, supprimé de Twitter, je me suis pris toute une salve d'attaques, notamment pendant le confinement,
oui,
où on m'accusait des pires choses, notamment d'avoir fermé Notre-Dame.
Ah bah oui, d'ailleurs vous le dites dans votre livre « Regardez-moi jongler » et vous citez certains messages effrayants, mais il est vrai que la violence la plus débridée sévit aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Violence automatique, rapide. C'est-à-dire que une simple vérification sur Google montrerait bien la différence. Une simple vérification de ma bio sur les réseaux sociaux, puisque je n'usurpe pas. Mais c'est quelque chose qui, très bizarrement, il va falloir que j'apprenne à faire avec, puisque dès mon arrivée à Paris à la BNF, je n'ai pas pu m'inscrire, puisque la BNF avait déjà enregistré le préfet, qui n'était pas encore préfet, qui travaillait quand même pour l'État, avait déjà enregistré le préfet, donc je n'ai pas pu y aller. Et ensuite, je me rappelle très bien, puisqu'il faut redonner vraiment à ceux qui ont commencé, c'est l'émission de Yann Barthès, avec le Petit Journal, qui un jour a parlé du préfet en mettant une de mes photos.
Non.
Bien sûr, en mettant ma propre photo, j'ai la capture d'écran. Donc finalement, voilà, ce qui se passe sur Twitter n'est qu'aussi un résultat d'une négligence de journalistes. J'aime beaucoup Laurent Nunez, à qui j'ai les rapports les plus fraternels. Il me renvoie les livres qu'on lui envoie. Je ne lui renvoie pas les injures que parfois on envoie au préfet. Donc on s'entend extrêmement bien, mais je ne pensais pas qu'on pouvait nous confondre.
Mais est-ce que justement, ce ne seront pas certains influenceurs qui risqueront, dans dans les années à venir de devenir des nouveaux Gérard, avec effectivement une partie des gens ceux qui se retourneront contre eux et qui les abreuveront d'injures, Tiborès.
Oui, tout à fait. Je pense que l'histoire de Gérard, elle est fascinante en soi. Elle est aussi universelle sous beaucoup d'aspects, mais c'est aussi un objet journalistique. Moi, je suis journaliste de profession. Et je pense que ce qui fait que l'histoire de Gérard est très contemporaine, c'est précisément ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que Gérard, c'est le patient zéro de, d'abord, la télé-réalité.
Oui.
Parce que c'est la première fois qu'un anonyme va être extirpé de son milieu et placé devant un micro et devant des centaines de millions de personnes et qui ne va pas jouer un rôle, qui va être lui-même. Et non seulement c'est le premier reality show, mais c'est le plus paroxysmique parce que plus tard, il y a eu donc Love Story et puis toutes les émissions qu'on connaît aujourd'hui. Mais ceux qui y vont savent où ils vont et sont conscients du spectacle qu'on attend d'eux. Gérard, lui, ne l'était pas. Et puis, c'est aussi les prémices, je pense, de ce qu'on voit aujourd'hui, mais multiplié par 10, 100, 1000, c'est-à-dire cette figure du souffre-douleur ou de la victime plus ou moins consentante qui, à la faveur des réseaux sociaux, sont la cible de ce qu'on appelle le harcèlement de masse. Gérard, à l'époque, il y a quand même le filtre du standard téléphonique qu'il faut passer pour pouvoir s'adresser à lui, pour pouvoir se moquer de lui. Mais aujourd'hui, si vous voulez injurier quelqu'un ou vous moquer de quelqu'un, il faut lui envoyer un message sur ses réseaux sociaux. C'est beaucoup plus rapide, c'est ce que disait Laurent Nunez. C'est instantané. Et donc, il préfigure aussi tout ça, cet homme.
J'ai appris il y a quelques jours que Gabriel Attal voulait instaurer un couvre-feu numérique entre 22h et 8h, justement pour ces adolescents de 15 à 18 ans, une manière de réagir au ravage des écrans. Et effectivement, parce que dans les années 90, on avait le choix entre la lecture et la radio, le soir tard, à l'abri de ses parents. Maintenant, choisit-on vraiment Internet ou la lecture? On a l'impression qu'au contraire, la lecture passe à la trappe. Et vous dites, Laurent Nunez, dans votre livre, que vous passez votre vie à lire et à écrire. Donc, c'est une passion qui remonte à loin, que votre écoute des radios libres n'a pas empêché, n'a pas retardé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans cette situation, Laurent Nunez?
C'est complexe. Moi, j'aimerais bien laisser l'éventail de l'expérience ouverte, c'est-à-dire la possibilité d'écouter la radio, quand la possibilité de lire, la possibilité d'écrire, et quand on veut. La proposition de Gabriel Attal, je l'entends, mais elle est impossible. Et du coup, pour moi, c'est très simple. Elle est impossible technologiquement. On peut être très, très franc, il n'y a pas de moyen d'interdire à des gens à partir d'un âge jusqu'à un certain âge d'avoir accès à Internet. Ouais, du coup, une fois qu'on sait que c'est impossible, ouais, il faut réfléchir autrement. Mais voilà, c'est pas faisable. En tout cas, les trous dans la raquette seraient innombrables. Donc, il faut trouver une autre façon. Elle passe, à mon avis, par l'éducation, évidemment, par le goût de la lecture que moi m'ont donné mes parents, qui ne lisaient pas. Voilà, il faut aussi le dire. On peut avoir des parents qui ne lisent pas et qui sont tellement tristes de ne pas lire, qui donnent ce plaisir-là à leur enfant. Mais voilà, technologiquement, tant pis, ça ne passe pas. Il faut penser autrement.
On peut pas. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Tiborès?
Mon expérience, c'est qu'à l'époque où j'écoutais cette émission, les débats de Gérard, bah, j'ai commencé aussi à lire. Et le hasard fait que l'un des premiers livres que j'ai lus à 14-15 ans, c'est un livre de Stephen King qui s'appelle The Running Man. Et je l'ai lu en français, mais l'édition française a gardé le titre en anglais.
Ah oui.
Et il se trouve que c'est un des premiers livres, un des premiers romans de Stephen King. Et c'est le premier livre, je crois, que j'ai acheté qui n'était pas sur une liste scolaire, quoi. Et il se trouve que c'est l'histoire d'un homme. L'histoire se passe en 2025, c'est assez amusant. Et c'est l'histoire d'un homme qui va participer à un jeu de télé-réalité, dont il va être l'objet, et qui est une chasse à l'homme en direct, où il va être pourchassé par des chasseurs de primes. Et s'il gagne, s'il parvient à survivre pendant 30 jours à cette chasse à l'homme, il gagne $1 milliard. Et s'il perd, c'est qu'il a été tué par les chasseurs de primes. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps, que ce premier roman qui m'a, comme toutes les premières lectures, laissé une empreinte très forte, était une histoire de télé-réalité, avec un exemple de ce que pourraient donner les excès de la télé-réalité. Mais aussi, ça m'a fait rappeler que même si j'écoutais ces émissions-là, ça n'a pas empêché de, à côté, de lire, de prendre goût à la lecture. Et donc j'espère que les deux peuvent cohabiter, qu'aujourd'hui, moi je suis père de famille, j'arriverai à faire découvrir le plaisir de la lecture à mes enfants sans les empêcher de profiter de la technologie actuelle et d'Internet dans la poche, puisque c'est de ça dont on parle.
Sans les empêcher, mais est-ce qu'il ne faudra pas essayer quand même de les déconnecter de temps en temps?
Moi, je pense que le meilleur...
Tiboresse.
Je pense que, en tout cas, c'est ma façon de faire. Les enfants sont dans l'imitation. Donc, moi, je lis beaucoup à la maison. J'ai pas de télé chez moi. Le portable reste dans l'entrée quand j'arrive chez moi. Et je me dis, si mes enfants me voient lire, plutôt que de me voir sur mon téléphone, ils auront peut-être envie de lire plutôt que d'être sur leur téléphone. En tout cas, c'est le pari que je fais.
Le problème de l'imitation, c'est que les adolescents s'imitent les uns les autres. C'est ce qu'Hannah Arendt a très bien remarqué dans son texte admirable sur la crise de l'éducation. Il y a une tyrannie de la majorité, si vous voulez, et l'autorité se perd à cause de ça. Donc on veut faire comme les autres. Donc une époque, on mettait des fils aux oreilles pour écouter la radio parce qu'on voyait ses copains de classe le faire. Donc c'est ça qui est difficile. Les enfants imitent-ils encore leurs parents ou leurs condisciples? Mais vous, Laurent Nunez, c'est quoi vos premières expériences de lecture?
J'ai beaucoup de chance. Mes parents nous avaient inscrits à France Loisirs, qui donc était une sorte de club qui forçait à acheter un livre tous les 2 ou 3 mois. Et la grande chance que j'avais, c'est qu'ils refusaient... on oubliait toujours d'acheter un livre et je devais toujours choisir. Et un jour, j'ai acheté une anthologie de poèmes. C'était des petits romantiques, enfin petits. Il y avait Baudelaire d'abord, mais ensuite il y avait Corbière et Mallarmé. Donc voilà.
Mallarmé.
Et complètement. Voilà.
C'est merveilleux.
Et donc voilà, c'est entièrement par une édition comme ça, très très grand public, que j'ai découvert Mallarmé. Et oui, j'avais 13 ans, 14 ans. J'ai rien compris. Peut-être j'en ai 47, je comprends peut-être pas plus, mais ça ne m'empêche pas. L'hermétisme n'empêche pas le plaisir.
C'est très juste ce que vous dites et ça me rappelle une réflexion de Sartre dans Les Mots. Il lit Flaubert à 15 ans, Madame Bovary, et il connaît la volupté de comprendre sans comprendre. Et est devenu un lecteur tellement assidu de Flaubert qu'il a écrit à la fin de sa vie L'idiot de la famille. Voilà, c'est ce que la littérature jeunesse nous fait oublier. C'est bien de lire des livres trop grands pour soi, si j'ose dire. Des livres qui vous transcendent, qui vous dépassent. Donc, découvrir Mallarmé à 14 ans, moi c'est Dostoïevski que j'ai découvert à 15 ans, donc les années précédentes je lisais Perl Buck, etc. Mais ma première expérience de véritable lecture, c'est Les Mémoires dans un souterrain de Dostoïevski, après toute l'adolescence avec Dostoïevski, et voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore la place pour ça à l'heure d'Internet? Je ne sais pas, mais revenons à Gérard, à ce pauvre Gérard que je ne veux pas abandonné parce que j'ai été très ému par l'histoire du conte de minuit et notamment ému, bouleversé par Kevin. Parlez-nous de Kevin, c'est le premier personnage de votre livre. Il est comme vous, il est rebelle par conformisme.
Tout à fait.
Et donc, le jeudi soir, il ne manque pas les débats de Kevin. Mais, il veut ensuite établir un lien avec lui. Pourquoi et comment?
Oui, Kevin...
Tiboresse.
Kevin, il sauve cette histoire de la noirceur. Kevin, il ouvre le livre. C'est le prototype de l'auditeur que Laurent et moi étions à cette époque-là. Rebelle par conformisme, vous venez de le dire. C'est une formule que j'emploie dans le livre. Et qui donc est un élève un peu médiocre. L'élève du fond de classe qui fait des canulars à ses profs, qui a des mauvaises notes mais qui s'en fiche et qui écoute ses émissions le soir dans le secret de son lit comme on le faisait Laurent et moi. Et puis il disparaît assez tôt comme ça du récit, c'est une manière d'entrer un peu dans cet univers des radios libres. Et puis il ressurgit à la fin, un peu plus tard en tout cas, aux 2/3 du livre, au moment où Gérard vient de se faire éjecter de la radio.
Éjecté, oui.
Voilà, c'est le terme qui convient, hélas, suite au dérapage qu'on a évoqué un peu plus tôt. Et là, cet auditeur lambda, comme nous tous, va avoir une attitude différente qui va consister à aller voir Gérard, à comprendre qu'il est dans une détresse, il vient de perdre cette émission, qui le raccrochait à une forme de réalité malgré tout, qui lui a permis, malgré tous ses défauts, malgré cette cruauté, de sortir de la marginalité au moins un temps, même s'il y est retourné, et qui va offrir à Gérard une amitié réelle, sincère, alors qu'il a une vingtaine d'années, hein, à ce moment-là, qui va lui rendre visite à Montluçon, où Gérard s'est installé après son éviction de l'antenne, et qui va lui apporter un soutien moral, qui va passer du temps chez lui, tout simplement, à regarder la télé, à parler de tout et de rien.
Oui, parce que quand il est chez lui, il regarde la télé à peu près toute la journée.
Voilà, hein. Il se parle très peu, finalement.
Oui. Mais il y a cette présence. Ils boivent des bières.
Ils boivent des bières, voilà. Gérard prévoit toujours un pack de bières quand Kevin vient le voir. Et va se nouer comme ça une amitié totalement improbable. Et en fait, le personnage de Kevin, grâce à ses voyages chez Gérard, va un peu, je pense, symboliquement, sauver les auditeurs que nous étions de la culpabilité et de ce sadisme que vous avez évoqué plus tôt. Et donc, ce faisant, il a sauvé aussi cette histoire de la noirceur absolue en lui donnant un petit peu de lumière.
Oui, donc cette culpabilité, vous l'avez vous-même ressentie, Laurent Nunez. Est-ce pour cela que vous avez eu l'idée de faire un livre et que vous avez même préparé un plan?
Oui, bien sûr, j'ai ressenti cette culpabilité à tel point, et c'est la force du conte minuit qu'il fait passer dans la littérature, c'est que moi, j'ai entendu initialement ce premier chapitre comme une sorte de fiction. Vous savez, Kevin, c'est un prénom dans la littérature ultra-contemporaine,
oui,
d'une sorte de gamin beauf. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres sur la revanche de Kevin. Actuellement, voilà, pour moi, c'était une sorte d'entité qui regroupait tout le monde, tous les auditeurs de Gérard, gamins, innocents et coupables. Et donc, voilà, moi, j'ai pris ça vraiment comme une sorte de résumé de ce que nous étions tous.
Oui, alors d'ailleurs, cette présentation est très frappante. Hein. C'est un garçon intelligent mais paresseux, qui préfère la compagnie des cancres, par conformisme en effet, autant que par fainéantise. Et il arbore l'uniforme officiel du collégien branché de 1997, basket Reebok, jean 501, bomber shot, je comprends plus, dont le logo scratché à la poitrine est à la fois le sommet du chic et l'objet de convoitise favori des chapardeurs de préau. Et c'est le parfait petit emmerdeur que redoutent tous les parents, sauf le jeudi, là où il est très gentil parce que il veut pouvoir écouter tranquillement Fun Radio sans être dérangé. Je me suis même demandé, Tiboret, si c'était pas vous. Et finalement, c'est pas vous, en effet. Et donc, il vient, en quelque sorte, par une sorte de repentir, chercher l'amitié de Gérard de Suresnes. Il se rencontre, il se voit, et lui ne se fait pas rembarrer, parce que beaucoup de ceux qui ont cherché à établir de liens avec Gérard de Suresnes ont été viré de chez lui. C'était quand même, au bout du compte, un homme impossible.
Thibault. Oui, c'est l'une des dimensions, je pense, universelles de cette histoire. Gérard, c'est quelqu'un qu'il était impossible d'aider. Et on a tous rencontré dans nos vies des gens qu'on a voulu aider, à qui on a tendu des mains. Et cette émission, vous l'avez rappelé, était aussi une opportunité pour Gérard peut-être de sortir de la marginalité. Ça a été vu comme ça par des gens de son entourage, de cette équipe. Une manière peut-être de le réinsérer socialement. Et ça a échoué. Et finalement, Gérard, c'est le prototype des gens qu'on voudrait aider, mais qui ne veulent pas céder eux-mêmes. Et Kevin va avoir une approche différente. Il va essayer non pas de l'aider, mais de lui apporter un peu d'amitié, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et vous lui apportez aussi un peu d'amitié, Tiboret, dans votre livre, même beaucoup, dans votre livre, Le Conte de minuit, l'histoire vraie de Gérard de Suresnes, SDF devenu star malgré lui, aux éditions de Noël. J'ai cité aussi votre livre, Laurent Nunez, Regardez-moi jongler, aux éditions du Cerf. Voilà, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui, Corentin Bailly. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Justice et politique ». Mes invités seront Henri Guénaud et Denis Salas. dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.
Je sais que mes mains qui ne cherchent d'habitude que l'ivoire et l'ébène d'un piano de salon, que la peau de mes doigts racornis durcis par des cordes usagées de bronze et de nylon font de moi une pierre, une folle cavalière qui n'est que passagère. Je sais que mes yeux ne cachent plus la blessure des longtemps enterrés au fond de mes bagages, et que sur le terrain nul ne paraît très sûr, ni la vue imprenable, ni le parfum sauvage de la haute altitude et son allié absurde, la sublime solitude. Je sais que ton cœur, tant brisé par une autre, est venu rechercher un peu de réconfort. N'en déplaise la rumeur sur le pas de ma porte, sans même l'ombre d'un doute, tu es viré de bord. Tu as poussé offshore, je m'en souviens encore, jusqu'au fond de l'impasse, tous ces hommes pleins d'audace qui me parlent à voix basse, mais qui souvent, hélas, me laissent de glace. Je suis bien peu de choses, qu'il me reste le reste d'une foutue promesse, que l'amour sans lendemain tu en as eu ta dose, que le bonheur, la joie tu les fuis de justesse, pour ce vieil interlude, cette affreuse habitude, cette divine plénitude, la sublime.